Voilà, donc bonjour à tout le monde. Alors mon intervention sera assez introductive, puisque je vais essayer simplement de détailler ce qui se trouve sous ce terme qualité pour l'Union européenne et quels enjeux, très largement, il peut y avoir derrière ce terme qualité. Alors ça part un peu d'acheminement personnel dans mon travail, puisque c'est vrai que quand on lit ce terme qualité, et on lit beaucoup dans les documents européens, on reste un peu perplexe en fait. Parce que c'est un terme très vague, on ne sait pas trop dire ce que ça recouvre, c'est un terme qui paraît inoffensif, c'est un terme qui paraît consensuel, tout le monde veut une formation de qualité. Et on ne sait pas trop finalement s'il y a une problématique politique derrière ce terme et quels sont les enjeux vraiment à dégager derrière ce terme. Donc, une fois qu'on réfléchit un peu plus, on voit que derrière ce terme très consensuel, il y a plusieurs choses qui sont assez importantes, qui ont potentiellement une portée assez large, à savoir premièrement une certaine conception de ce qu'est une bonne formation, hein, c'est logique, c'est dans le terme, une formation de qualité c'est quoi ? Voilà, c'est comme autre chose, hein, on n'a pas tous les mêmes critères pour juger de la qualité d'une certaine chose, donc quand les pouvoirs publics parlent de qualité, on peut supposer qu'ils ont une certaine conception de la qualité que tout le monde ne partage pas forcément. Alors, le deuxième élément, c'est une volonté d'influencer les systèmes de formation, les systèmes nationaux, puisqu'on parle de l'Union européenne. Donc évidemment, dès qu'on parle de qualité, on parle d'une certaine conception de la formation, et puis on parle évidemment d'une volonté d'influencer, de la mettre en œuvre, de la voir se réaliser sur le terrain. Et donc, un troisième volet, c'est qui est connexe en fait, c'est des visées de transformation du secteur, puisqu'on peut se dire, voilà, à partir du moment où les pouvoirs publics spécialement au niveau européen, parlent de qualité, ils ont quelque chose en tête, en fait, pour le secteur, et ils ont une idée de à quoi le secteur devrait ressembler pour offrir cette fameuse qualité telle qu'elle est conçue au niveau européen. Donc voilà, on va juste essayer d'aller au travers de ces trois points pour saisir un peu la complexité de cette question qui paraît anodine à première vue. Voilà, la qualité, tout le monde est d'accord. Alors le plan qu'on va suivre, premièrement on va juste voir brièvement en quoi ça consiste les politiques européennes de formation et comment l'Union européenne s'y prend en gros pour influencer les questions de formation. Deuxièmement, on va un peu se pencher sur les normes de qualité, c'est quoi ces fameuses normes de qualité. Troisièmement, on va regarder très brièvement l'impact en Fédération Wallonie-Bruxelles via un exemple et ensuite brièvement je détaillerai quelques enjeux, quelques points d'intention sous-jacents mais sur lesquels d'autres intervenants reviendront, je pense, pendant la journée. Alors, le premier point, les politiques européennes de formation. Donc, elles se font sous un mot d'ordre, en fait, ou un slogan, si vous voulez, qui est l'apprentissage tout au long de la vie. L'Union européenne dit qu'il faut absolument qu'il y ait de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est hyper important pour l'Union européenne. Et voilà, c'est un terme assez ambigu. Ça peut renvoyer, évidemment, encore longtemps, à la fois à des revendications d'éducation permanente, d'éducation populaire, ou à une dimension beaucoup plus d'activation, où il faudrait sans arrêt se reformer, même si on est qualifié, pour s'adapter, pour être flexible, etc. etc. Donc c'est un terme un peu fourre-tout. Mais on peut dire qu'en gros, il comporte deux volets, deux registres. Le premier, c'est une volonté d'intégrer les systèmes d'apprentissage. Pour qu'il y ait en fait apprentissage tout au long de la vie, il faut qu'on puisse passer d'un opérateur à l'autre, d'une filière à l'autre, d'un système à l'autre. Et donc, il ne faut pas, pour l'Union européenne, que les formations soient cloisonnées. Il faut pouvoir passer, par exemple, d'acquis informel ou d'acquis non formel à une formation formelle, ou il faut pouvoir passer d'une formation, voilà, je ne sais pas moi, en promotion sociale à une formation universitaire. Il ne faut pas que ce soit cloisonné. Et évidemment, il faut pouvoir passer d'une formation en Belgique à une formation en Italie, si ça nous chante, puisque l'idée, c'est de faire un espace européen. Alors le problème, c'est que l'Union européenne veut intégrer donc les systèmes d'apprentissage, mais on ne peut jamais intégrer les systèmes de manière neutre. Ce serait un mensonge de dire qu'on va faire des équivalences entre les différentes formations, mais en respectant la diversité des formations. Il y a forcément une certaine vue, et c'est le deuxième volet, de réformer, de modifier, d'influencer le système de formation et les paysages de formation dans un certain sens. Alors comment est-ce que l'Union européenne vise à faire ces deux choses-là? C'est assez paradoxal parce qu'en fait, l'Union européenne n'est pas compétente directement. Elle ne peut pas faire une loi pour dire, voilà, demain, il va se passer, les choses vont se passer comme ci et comme ça pour la formation. Elle peut simplement appuyer, coordonner, compléter, voilà, c'est le traité qui dit ça. simplement appuyer, coordonner, compléter l'action des États membres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'elle le fait via deux manières. Elle a développé vraiment une activité importante pour appuyer, coordonner et compléter l'action des États membres. Et elle fait ça de deux manières. Premièrement, il y a des groupes de travail qui sont mis en place, souvent qui regroupent des fonctionnaires nationaux, par exemple de la communauté française et des homologues d'ailleurs, et qui planchent sur différentes questions, voilà, le financement, la qualité, la participation aux formations de la part des adultes, les compétences de base, etc., etc., etc. Et ces groupes de travail produisent des documents qui récapitulent une série de recommandations. Et alors, deuxièmement, ces documents alimentent ensuite des documents normatifs, non contraignants, ça s'appelle des recommandations, en fait, que l'Union européenne fait aux États membres. Donc voilà, c'est très simple. Les différentes institutions, donc la Commission et le Conseil, qui regroupent les États membres, se mettent d'accord sur une recommandation faite aux États. Donc voilà, par exemple, bien sûr, l'Union européenne n'a pas de pouvoir concernant l'éducation, elle n'a pas de compétences directes, mais elle vous recommande, si vous voulez réformer votre système de formation, de le faire dans tel sens et dans tel sens, pour mettre en place ce fameux système d'apprentissage tout au long de la vie. Alors c'est quoi ces recommandations ? Qu'est-ce qu'il y a comme recommandations ? Donc c'est des documents, ça va, non contraignants, simplement sur lesquels les États peuvent s'appuyer. Alors j'ai mis 2-3 exemples là dans cette slide. Il y a premièrement le cadre européen des certifications. Alors ça, on va en reparler parce que c'est un cadre. Je vous disais que le but, c'était qu'il n'y ait pas de cloison, que les gens, en théorie évidemment, puissent avoir un parcours fluide, qu'ils puissent passer de différents opérateurs, d'un opérateur à l'autre sans problème. Et donc pour ça, il y a ce cadre de certification qui établit 8 niveaux de certification. Donc c'est un tableau en fait très simple avec avec des colonnes, une colonne compétence, une colonne aptitude, une colonne savoir, et pour chaque niveau, il y a 8 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et pour chaque niveau, il y a des compétences, des acquis et des aptitudes qui sont définies, si vous voulez. Et donc c'est, si vous voulez, un cadre pour créer des équivalences automatiques. Le but, c'est que les différents opérateurs situent leur formation sur ce cadre. Voilà, par exemple, moi je fais une formation de niveau 3, et donc la personne qui finit cette formation avec succès, elle est reconnue niveau 3 et elle peut passer en niveau 4 ailleurs. C'est une sorte de système d'équivalence automatique, si on veut décrire ça simplement, qui permet, comme je disais, de décloisonner, ou qui est censé décloisonner les systèmes de formation. Alors ce qui est important de dire sur ce cadre, c'est qu'il se base très fort sur la notion d'acquis d'apprentissage. On nous dit, voilà, puisque les formations sont tellement diverses, elles sont tellement variées, la seule chose qu'on peut comparer, c'est les acquis d'apprentissage. Alors ça, ce sera assez important pour la suite, cette notion d'acquis d'apprentissage. Une deuxième recommandation importante, c'est celle sur la validation des compétences. Donc là, l'Union européenne nous dit, voilà, il faut mettre en place des systèmes pour valider les compétences, pour que les gens qui ont acquis des compétences dans le non-formel ou dans l'informel, donc qui n'ont pas obtenu de certification, qui n'ont pas obtenu de diplôme, puissent par la suite les faire reconnaître auprès d'instances spécialement créées pour cela. Donc ça, ça existe aussi en Belgique depuis. Et alors, un troisième exemple de recommandation non contraignante, toujours de la part de l'Union européenne, faite aux États membres, c'est le cadre pour l'assurance qualité dans la formation professionnelle, où là, on nous dit, voilà, comment il faut faire pour assurer la qualité dans la formation professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment des normes non contraignantes, mais qui sont censées guider l'action des États. Alors ces normes ont un grand succès, évidemment, assez, enfin, évidemment en fait, non, c'est pas du tout évident. Elles sont très fort utilisées par les États quand ils veulent reformuler leur politique ou changer leur politique. Alors, plus spécifiquement maintenant sur les normes qualité, qu'est-ce que c'est la qualité ? Donc il y a pas mal de fois où la qualité est citée dans ces documents. Et un premier moment où elle est citée, c'est dans le cadre des certifications, à travers la notion d'acquis d'apprentissage, dont je parlais tout à l'heure. Alors, dans ce sens-là, c'est quoi la qualité d'une formation pour l'Union européenne par rapport à la notion d'acquis d'apprentissage ? C'est très simple. Les opérateurs doivent définir les acquis d'apprentissage attendus en fin de formation, et une formation sera jugée de qualité, pour le dire simplement, un peu caricaturalement, si, effectivement, à la fin de la formation, il y a ces acquis qui sont obtenus, si elle permet effectivement de fournir à l'apprenant les acquis pour lesquels elle s'était engagée, sur lesquels elle s'était engagée. Donc si maintenant j'ai dit que j'allais fournir tel et tel et tel acquis qui sont du niveau 3, par exemple, du cadre de certification, il ne s'agirait pas que je fournisse des acquis du niveau 1, voilà, pour le dire trivialement, sinon ce sera considéré comme une formation de mauvaise qualité. Alors, un autre endroit où la qualité est citée, c'est le cadre de référence pour la qualité dans la formation professionnelle, sur lequel je vais m'attarder un peu plus. Et alors, il n'y a pas de document sur la qualité pour l'éducation des adultes en général, hein, pour ce qui ressortirait de l'éducation permanente, disons. Simplement, il y a un groupe de travail qui s'est penché sur la question, auquel a participé Myriam Skowers, qui va intervenir après moi. Et donc, elle nous parlera du rapport qui est ressorti de ce groupe de travail, qui lui concerne non pas seulement la formation professionnelle, mais toute la qualité pour toute l'éducation des adultes. Mais bon, moi je vais m'attarder sur le document existant, qui est le cadre qualité pour la formation professionnelle. Et donc là, on va voir un peu ce qu'est vraiment la qualité pour l'Union européenne, et on va voir que c'est pas vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre, ou en tout cas ce à quoi on penserait, nous, si on nous demandait, tiens, qu'est-ce qu'une bonne formation? Qu'est-ce que la qualité pour une bonne formation? Donc, c'est quoi la qualité dans ce document? C'est deux choses. C'est, premièrement, on nous dit, voilà, il faut absolument évaluer les actions de formation. Donc, un premier élément, c'est un impératif d'évaluation. Il faut que les opérateurs et les pouvoirs publics, les deux, évaluent la qualité des formations. Voilà, c'est trivial, ça paraît trivial en tout cas. Alors, simplement, c'est pas si trivial que ça, puisqu'il y a une certaine manière d'évaluer qui est préconisée. Alors c'est quoi? C'est une logique un peu managériale, on pourrait dire, je pense qu'on y reviendra dans le cours de la journée. Donc on nous dit, voilà, il faut fixer des buts, il faut fixer des objectifs mesurables, de préférence. Ensuite, il faut faire des plans de mise en œuvre. Voilà, vous êtes un opérateur, vous dites, voilà, je veux améliorer la qualité, qu'est-ce que je vise? Quels sont mes objectifs? Selon quels indicateurs est-ce que je vais mesurer mes objectifs? Ensuite, je dois faire un plan de mise en œuvre, je dois dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs? Et après un certain temps, je vais devoir évaluer, de préférence avec des mesurages, l'efficacité de ce que j'ai fait à l'aune des objectifs que j'avais fixés. Et ensuite ça devra donner lieu à un réexamen de mes pratiques, comme on dit, qui devra donner lieu par la suite à un nouveau cycle, etc., etc., etc. Donc voilà, une certaine manière d'évaluer, et on nous dit, voilà, il faut absolument que les opérateurs et les pouvoirs publics évaluent la qualité des formations. Donc, en gros, que les opérateurs s'auto-évaluent, hein, avec des objectifs que eux-mêmes ont fixés, et ensuite qu'ils se fassent évaluer. Voilà. Alors, le deuxième point de la qualité dans ce document, qui est peut-être un peu plus substantiel, c'est les indicateurs, puisque on nous dit, voilà, pour évaluer, il faut des indicateurs. Et dans ces indicateurs, évidemment, c'est là que ça devient intéressant, puisque c'est là qu'on va trouver la conception substantielle de la qualité. Les indicateurs qu'on prend pour mesurer la qualité, c'est là qu'on va retrouver quelle conception de la qualité on a. Ça va ? Donc, les indicateurs dans ce cadre qualité pour la formation professionnelle, ce sont les suivants, en gros. Il y a premièrement la question de l'investissement dans la formation des formateurs. Donc on nous dit, voilà, un indicateur important pour mesurer la qualité, c'est combien on dépense et qu'est-ce qu'on fait pour former les formateurs. Un deuxième indicateur, c'est le nombre de participants aux formations. Ensuite, il y a des indicateurs plutôt de résultats, donc le nombre de personnes ayant achevé la formation avec succès, par rapport au nombre de personnes qui auraient abandonné. Le nombre de personnes ayant trouvé un emploi suite à cette formation, mais aussi, par exemple, l'utilisation des compétences apprises dans l'emploi. Donc, est-ce que ces compétences ont été pertinentes par la suite dans l'emploi? Et alors ensuite, il y a des indicateurs plutôt de contexte. Donc, par exemple, la proportion de participants issus de groupes vulnérables, ça va parler à ceux qui s'occupent du FSA, la proportion de participants issus de groupes vulnérables, la proportion de participants au chômage, et des choses plutôt de contexte comme ça, qui renseignent sur le cadre général de la formation, ou dans lequel la formation s'élaborait. Donc on voit que finalement la qualité, c'est peut-être pas ce qu'on pensait, c'est peut-être pas ce qu'on avait en tête, c'est un, s'auto-évaluer, se faire évaluer, et deux, selon des indicateurs. Et ces indicateurs, on a envie de dire, ils sont assez pauvres, peut-être qu'on pourrait en parler, mais... Évidemment, c'est juste pour la formation professionnelle, mais tout de même, ils paraissent assez restreints. Donc, l'impact de ça en communauté française. Alors, comme je disais, c'est non contraignant, et donc c'est difficile de mesurer l'impact vraiment, ou d'identifier l'impact, puisque ces impacts, ils sont plutôt diffus. C'est plutôt un impact qu'on pourrait appeler cognitif, ou un impact sur les mentalités. Le but, c'est plutôt de redéfinir les discours, redéfinir les mentalités, redéfinir la manière de problématiser les choses, de cette manière-là pour changer les mentalités des gens et que cette conception-là percole, si vous voulez, dans le secteur. Alors, les mentalités de qui ? Ben, des décideurs, des fonctionnaires, des opérateurs, des acteurs, que sais-je, des apprenants, de tout qui est impliqué dans les actions de formation. Alors bon, ça évidemment c'est assez difficile à établir, en tout cas de manière objective. Peut-être qu'on, dans la discussion on pourrait se dire, tiens, est-ce que moi dans ma vie quotidienne, dans mon travail, etc., j'ai eu des expériences qui font écho à ce genre de conception, c'est possible. Mais moi je m'attardais sur un document plus particulier, où là on voit une influence, qui est le cadre francophone des certifications. Alors c'est quoi ça le cadre francophone des certifications ? C'est un document qui est l'adaptation en fait belge francophone du cadre européen des certifications dont je parlais tout à l'heure, donc avec les 8 niveaux de compétences, d'acquis et de savoir, donc les 8 niveaux de certification. Et donc la Belgique francophone, c'était pas obligatoire, mais elle a décidé, elle, de elle aussi faire un cadre de certification pour positionner les différentes formations sur ce cadre. Et alors, dans ce cadre, il y a beaucoup question de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il y a dit sur la qualité ? Ben, premièrement, on nous dit, et ça c'est de nouveau l'histoire des acquis des apprentissages, on nous dit, ben, en fait, faire attention aux acquis d'apprentissage, et donc à ce à quoi correspondent les certifications, ben, c'est une première démarche qualité, comme ils appellent ça. Donc finalement, il faut définir les apprentissages, les acquis d'apprentissage attendus, et ensuite pouvoir évaluer si ces acquis d'apprentissage, si ces attentes sont bien rencontrées. Et donc une première définition de la qualité et une première démarche pour vérifier la qualité, selon ce texte, c'est de regarder bien les acquis d'apprentissage et ensuite d'évaluer si ces acquis d'apprentissage sont vraiment rencontrés. Alors, un deuxième endroit où on nous parle de la qualité, c'est un endroit du texte, une annexe en fait, où on nous dit, voilà, il y a quand même des principes de gestion de la qualité, des grands principes sur lesquels la région bruxelloise et la région wallonne sont d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces principes ? Premièrement, on nous dit, la gestion de la qualité, c'est la mission des opérateurs. C'est de la responsabilité des opérateurs de évaluer la qualité de leur formation. Donc là, ça reprend un peu ce qu'on a dit, cet impératif d'évaluation dont on parlait tout à l'heure. On nous dit aussi, la qualité doit être évaluée par des organes extérieurs. Alors, ces organes extérieurs, ben, ça peut être l'inspection, hein, qui est le dispositif d'évaluation classique en communauté française, mais on peut imaginer qu'à terme soient créées des agences indépendante, si vous voulez, qui évalue la qualité et donc ce soit l'unique boulot. Il y a ça déjà au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, c'est des agences qui ne font que ça, s'appelle AEQS en enseignement supérieur, et elles vont d'université en université pour évaluer la qualité des formations. Alors, on nous dit aussi dans ces grands principes, l'évaluation de la qualité, elle doit être centrée sur les acquis d'apprentissage, voilà, j'en ai déjà parlé. Les résultats des évaluations doivent être largement accessibles, donc en gros, si vous faites une évaluation publiée, il faut qu'on puisse voir. Et on nous dit aussi que les orientations relatives à la qualité au niveau européen constituent des points de référence pour le développement des systèmes de gestion de la qualité. Donc voilà, on reconnaît explicitement, si vous voulez, que les démarches européennes sont une référence pour gérer la qualité en communauté française. Donc on voit qu'il y a quand même un impact assez important. Et je pense que le premier impact assez important, c'est juste ce terme de qualité, juste la manière, le fait qu'on nous dise, voilà, il faut des démarches qualité et que des documents belges francophones reprennent ça et que sous le terme qualité, on place cette question d'évaluation et cette conception-là, ça montre assez bien que ça a été repris très fort par de l'Union européenne, par les pouvoirs publics belges. Alors, le dernier point de mon exposé, c'est les enjeux. Donc là, je serai assez bref, puisque ce sera l'objet du reste de la journée. Je pense qu'on peut dégager quelques enjeux qui sont derrière ce terme de qualité et qui relèvent soit du négatif ou du risque transformateur, disons, ou des enjeux plus positifs. Alors, un premier enjeu, ben, il est évident, c'est que derrière ce terme qualité, finalement, on cherche à définir ce qu'est une bonne formation, les finalités qu'une formation doit viser et les résultats qu'elle doit atteindre. Et donc là, évidemment, il y a peut-être un risque qu'on se voit imposer certaines finalités. On sait que l'Union européenne est très fort centrée sur le marché de l'emploi, sur l'insertion professionnelle, sur l'adaptabilité, sur la flexibilité des travailleurs, sur l'activation. Tout ça, c'est des finalités qui pourraient peut-être venir envahir la question de la qualité. Alors, c'est aussi des décisions quant au résultat. Et alors, ça renvoie à cette deuxième question qui est celle des acquis d'apprentissage. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se voir imposer certains acquis d'apprentissage, se voir caricaturer dans le travail qu'on fait? Est-ce que les acquis que nous on recherche sont les mêmes acquis que recherchent les pouvoirs publics ou qu'attendent les pouvoirs publics? Surtout en alphabétisation, c'est pas forcément évident. Troisièmement, il y a une logique managériale. On a vu dans la manière d'évaluer, dans la manière dont on est censé évaluer, c'est une certaine logique avec des buts, des plans d'action, des réévaluations, des mesures, etc. Et donc ça peut peut-être entrer en conflit ou dénaturer la manière de travailler plus propre au secteur, plus propre à l'associatif, qui a évidemment des logiques d'évaluation, on va en parler tout à l'heure, mais qui sont d'un autre ordre éventuellement. Alors, quatrièmement, il y a une logique de contrôle, et ça je pense que c'est le plus évident finalement. Derrière ce terme de qualité, il faut lire surtout le terme contrôle. Contrôle parce qu'il faut se déclarer en quelque sorte, il faut sortir du bois, il faut dire ce qu'on va faire très clairement, publiquement, et ensuite contrôle parce que ça va permettre ensuite de d'être évalué, contrôlé par les pouvoirs publics. Donc, sous ce terme qualité, finalement, on a vu que substantiellement, il n'y avait pas grand-chose, mais que par contre, en termes de contrôle, d'évaluation, là, il y avait vraiment beaucoup. Alors, un dernier risque, disons, c'est le fait qu'on a affaire un peu à une logique sous-jacente, hein, je ne dis pas que c'est pour demain, mais on a affaire quand même à une logique sous-jacente de marché, ou une logique sous-jacente de mise en concurrence. Pourquoi ? Parce que si on prend la logique à l'extrême, une fois que tous les niveaux de certification sont établis, une fois qu'il y a des labels qualité qui sont créés, une fois que les exigences sont bien clarifiées, une fois qu'il y a des dispositifs de publication des résultats, des performances, etc., finalement, en théorie, n'importe qui peut dispenser des formations. N'importe quel opérateur privé peut entrer sur ce qui serait un marché de la formation. Et c'est vraiment, si vous voulez, une logique de cahier des charges, pour le dire comme ça, sous-jacente à cette question de la qualité. Donc voilà, c'est quelques pistes, hein, je ne m'étends pas dessus, j'espère qu'on pourra en reparler. C'est quelques pistes pour voir que derrière ce terme qualité, finalement, il y a des enjeux assez larges. Bon, quand même, pour pas peindre le tableau tout noir, j'ai mis quelques points positifs. Donc, premièrement, c'est que cette question, elle doit induire une réflexion des opérateurs. On voit que les opérateurs sont poussés eux-mêmes à définir, tiens, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs qu'on vise, comment est-ce qu'on va s'évaluer, etc. Donc je pense que ça peut être salutaire, puisqu'il y a quand même une marge de manœuvre, de se dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la qualité pour nous. Il y a un espace là-dedans pour se poser la question, pour arriver avec une certaine conception et les défendre. Alors, un deuxième point important que j'ai mis, c'est l'action de la professionnalisation des formateurs ou des professionnels de la formation, puisqu'il est beaucoup question de l'investissement dans la formation des formateurs, et ça je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose auquel tout le monde tient assez fort, et donc ça, je pense que c'est salutaire que cet élément soit figure en si bonne place. Et un troisième point positif, c'est le fait que le parcours des apprenants ou le travail des apprenants puisse être reconnu plus largement ou au-delà de l'opérateur ou du secteur dans lequel ils ont été formés. Qui puissent faire valoir le travail qu'ils ont fait ailleurs, plus loin que précisément dans le secteur où ils étaient. Voilà, j'imagine qu'il y a tout un tas d'autres enjeux ou risques ou opportunités qui sont identifiables, mais ça, on pourra en discuter aujourd'hui plus longuement. Alors, je ne vais pas conclure puisque c'était juste une introduction, simplement quelques questions auxquelles on peut penser pour la suite de la journée. Premièrement, on est entre gens qui travaillent quand même dans le secteur, j'ai dit que les effets étaient diffus, donc on peut quand même se demander, voilà, ces effets, comment est-ce qu'ils se diffusent, où est-ce qu'ils se diffusent, quels effets, est-ce que ce que j'ai dit et ce qui sera dit plus tard, ça fait écho à des choses vécues dans le quotidien professionnel de certains d'entre nous, d'entre vous. Ça, c'est une première question qui me paraît intéressante. Une deuxième question, c'est quelle marge de manœuvre il y a, comment se positionner par rapport à ça. Et donc une troisième question, forcément, c'est qu'est-ce que la qualité pour l'alphabétisation? Qu'est-ce que la qualité pour l'éducation populaire? Voilà, ça c'est une question qui me paraît importante aussi. Voilà, merci.